Plusieurs années se passèrent ainsi. L'apprenti du père Rondeau n'était plus un enfant, mais un jeune homme honnête et laborieux. Son échoppe était le rendez-vous ordinaire de ce qu'il y avait de mieux parmi les cordons bleus parisiens, et plus d'une gentille femme de ménage eût fait volontiers un trou à ses petits souliers de maroquin verni pour avoir le plaisir de les donner raccommodés au fils du porteur d'eau. La mère de Jacques, si bonne, si dévouée, plus compatissante encore aux maux qui naguère avaient été son partage, croyait avec raison que le meilleur moyen de remercier Dieu de ce bien-être inespéré était de pratiquer à son tour la charité évangélique dans toute sa pureté première. Aussi, elle soignait et consolait chaque jour un vieil homme presque aveugle que l'âge et le malheur avaient aigri et rendait insupportable à tous. Marthe pansait ses plaies avec une impatience que rien ne lassait, mettait ses hardes en ordre, préparait ses repas, et lorsque le temps était beau, elle lui faisait faire une petite promenade, guidant ses pas incertains à travers la foule. Jacques, lui aussi, allait fréquemment visiter son vieil ami, comme il l'appelait. Un jour, étant un peu pressé d'ouvrage, il voulut mettre à profit le temps de sa visite en recommandant une paire de bottes fort usées au pauvre infirme. Une boue épaisse et sèche était attachée aux semelles. Jacques en avait déjà enlevé une couche, lorsque de l'une des semelles, que retenaient à peine quelques clous, s'échappa un médaillon qui roula à ses pieds. Ce médaillon dépassait le diamètre d'une pièce de 2 francs, mais il était tellement terni par la boue que Jacques ne put d'abord distinguer ce qu'il renfermait. Il le nettoya, et alors un bijou d'une valeur extrême s'offrit à ses regards. C'était un double cercle de diamants et de turquoise, servant de cadre à un portrait de femme admirablement peint. À la richesse du cadre, le jeune savetier comprit que les traits si purs et si charmants qu'il contemplait devaient être bien chers à la personne qui avait perdu le médaillon. Il en dépeignit la beauté à l'aveugle et lui demanda de quel côté il s'était promené la veille. Cet homme n'avait cependant pas une nature vicieuse, mais le besoin et l'infortune sont de dangereux conseillers. Il prétendit que le médaillon lui appartenait de droit puisqu'il avait été trouvé dans une de ses chaussures, et qu'en le vendant, sa fortune serait faite. « Est-ce avec ma mère que vous vous êtes sorti hier ?» demanda Jacques, qui haussait les épaules sans l'écouter. « Pas hier, mais avant-hier. Et je me rappelle que le soir, je fus obligé de me déchausser, parce qu'un corps fort dur me blessait. Personne n'est venu vous voir ?»« Si, » répondit brusquement l'aveugle, fort mécontent de l'espèce d'interrogatoire qu'on lui faisait subir. Une jeune personne accompagnée de sa gouvernante m'apporte quelquefois des secours. Je ne peux pas distinguer ses traits, mais les bonnes paroles qu'elle joint à ses aumônes me les rendent très précieuses. Et son nom, François, ça demeure. Car il faut absolument savoir si ce médaillon est à elle avant de pousser plus loin nos recherches. Jamais on n'a prononcé son nom devant moi. J'ignore également où elle demeure. Ainsi, tu vois bien, Jacques, qu'il faut garder ce bijou qui nous tombe du ciel et en faire notre profit. C'est bien mal ce que vous dites là, François. D'ailleurs, à quoi cela nous servirait-il de nous souiller la conscience d'une mauvaise action? Aucun honnête homme, aucun bijoutier ne voudrait ni ne pourrait nous acheter le médaillon, avant que nous ayons fait toutes les démarches commandées en pareil cas pour savoir à qui il appartient. Pour ma part, je suis bien décidé à le garder pendant plus d'un an si je ne suis pas heureux dans mes recherches. Je vais de ce pas annoncer ma trouvaille sur les petites affiches et l'a déclaré aux mairies les plus rapprochées du quartier. Jacques sortit en disant ces mots, poursuivi par les récriminations de l'aveugle, furieux de ce qu'il appelait son entêtement et sa folie. Le jeune savetier, après avoir confié le précieux bijou à sa mère, avec prière de ne point s'en dessaisir, courut tout Paris, lisant annonces et réclames, et croyant entendre parler du médaillon à chaque coin de rue. Il dépensa, relativement à sa position, une somme très forte pour qu'on publiât sa trouvaille. Il rentra le soir assez tard, les jambes lasses, mais le cœur satisfait. Le surlendemain, vers 1 heure d'après-midi, une voiture armoriée avec des domestiques en livrée sombre s'arrêta devant l'échoppe de Jacques, qui travaillait activement pour réparer l'échec que sa probité avait fait à sa bourse. Une femme d'un certain âge et une jeune fille simplement mise, mais dont l'air distingué trahissait l'origine, descendirent de cette voiture. La jeune personne considéra un instant l'échoppe avec une espèce d'hésitation, puis s'avança rapidement vers l'ouvrier en lui disant d'une voix émue. « C'est vous, monsieur, qui avez trouvé un médaillon enfermant le portrait d'une femme ? C'est celui de ma mère. C'est tout ce qui me reste d'elle. Veuillez me le rendre, et soyez mille fois béni pour votre probité. » Afin de détruire chez Jacques, un peu interdit, la moindre pensée de méfiance, elle lui dépeignit exactement le bijou et ajouta « Rendez-le-moi, je vous prie. Sa perte m'a causé tant de peine. »« C'est mon plus vif désir, mademoiselle, » se hâta de répondre Jacques, qui avait beaucoup rougi en voyant cette belle demoiselle s'approcher de son échoppe aux yeux étonnés des curieux. « Je ne doute pas un instant que ce portrait ne vous appartienne, car votre ressemblance avec lui est frappante. C'est ma mère qui est dépositaire de votre médaillon. Veuillez me suivre près d'elle. » Le jeune ouvrier habitait toujours la mansarde où il couchait jadis avec la faim pour camarade de lit, et très fatigué d'une journée d'oisiveté et de vagabondage. Comme son hôte, le pauvre réduit avait bien changé d'aspect. Des meubles de noyer que la cire et les coups de brosse quotidiens faisaient reluire comme autant de glace, une étagère garnie de vaisselle et de couverts d'étain parfaitement étamés, des rideaux de pergale bien blanches aux lits et aux fenêtres, donnaient un air de gaieté à cette modeste demeure, et remplaçaient les carreaux de papier, la table boiteuse vermoulue, les escabeaux de bois et les couches de paille, où, naguère, la mère et les petits-enfants reposaient pendant cette triste nuit où le malheur était le gardien vigilant des chevets. Jacques voulut arrêter la jeune fille au second étage, chez le père Rondeau, mais elle insista pour continuer à monter, tenant à connaître, dit-elle, la mère d'un si honnête jeune homme. Après avoir franchi lestement l'escalier et pénétré dans la mansarde, elle attendit avec une impatience mal dissimulée que Jacques eût ouvert le petit coffre de bois qui renfermait son trésor. « ma mère, murmura-t-elle avec tendresse, dès qu'elle l'eut entre les mains, c'est bien vous que je revois. Que je suis heureuse en ce moment. Aussi, monsieur, si vous n'avez pas déjà trouvé votre récompense dans l'estime des gens de bien et dans celle de vous-même, que ma joie vous en tienne lieu. Je ne vous parle pas de ma reconnaissance, elle vous est acquise à jamais. Mais pour vous le prouver immédiatement, je vous prie d'accepter les diamants qui entourent ce portrait. Pour moi, ils n'ajoutent rien à sa valeur, et pour vous, ils seront beaucoup. » Voyant que Jacques pâlissait et rougissait tour à tour, « Pardonnez-moi, lui dit-elle, je sais très bien qu'un travail honorable vous met au-dessus du besoin. La propreté de cette demeure, je dirais même ce luxe chez un ouvrier, me le prouve suffisamment. Mais vous avez sans doute une famille, des parents âgés, dont vous pourrez augmenter le bien-être. Il faut que ce soit leur souvenir qui vous dicte la réponse que j'attends de vous. » Jacques refusa d'abord avec noblesse, sans aucun sentiment d'orgueil exagéré. Sa probité, en pareille circonstance, lui paraissait la chose la plus naturelle du monde, et ne méritait par conséquent ni éloge ni récompense. Mais au séduisant tableau des félicités, jusqu'alors inconnues que lui peignait rapidement la jeune fille avec des mots à elle, le jeune cordonnier envieux sentit faiblir sa résistance et éprouva un vif désir de goûter des bonheurs si doux. Il pensa à sa mère, à ses sœurs, au vieux François, cet ami qui avait adopté sa charité, et accepta avec autant de franchise que de reconnaissance. Lorsque ce premier moment d'émotion fut passé, il demanda à la généreuse donatrice si ce n'était pas elle qui allait quelquefois porter le secours à un pauvre aveugle qui demeurait en face dans les combles. Ce fut au tour de la jeune fille de rougir. Elle s'approcha de la fenêtre ouverte et se pencha tout dehors. « Oui, c'est moi, » répondit-elle simplement. « Il me semble même y être allée ces jours-ci. Mais pourquoi me faites-vous cette question ?»« Parce que j'ai trouvé votre médaillon dans une botte déchirée de ce vieux mendiant. Dieu l'a permis que je puisse vous remercier et vous bénir pour lui et pour moi. Votre visite dans cette mansarde, mademoiselle, vient de changer notre destinée à tous, ce qui prouve que les anges n'approchent pas les hommes que pour porter avec eux le bonheur et la consolation. » Deux jours après, le cadre si riche du portrait fut renvoyé à Jacques, avec une donation en bonne et due forme des diamants et des turquoises qui le composaient. Cette donation était signée par le comte de Toury et par sa fille. De plus, sous le pli, mademoiselle de Toury indiquait à Jacques le bijoutier de la famille qu'elle avait averti et qui, disait-elle, désirait devenir l'acquéreur du joyau. Il fut donc vendu et l'on convint d'un commun accord que Jacques achèterait un fonds de cordonnerie très bien achalandé et situé dans un des plus beaux quartiers de Paris. Toute sa famille s'y réunit à lui. L'auteur premier de cet heureux événement, François, le protégé de Marthe, ne fut point oublié. Installé dans la plus belle chambre de l'appartement occupé en commun, entouré de 1000 soins affectueux, il vécut encore quelques années, se considérant comme arrivé au comble de la félicité, quoique entièrement privé de la vue. C'est qu'il avait tant et tant souffert, le pauvre vieux, pendant sa rude existence, qu'il comparait, et que c'est la comparaison qui fait le bonheur. Le père et la mère Rondeau, après avoir sauvé Jacques, enfant de la paresse et de la misère, après l'avoir vu devenir, avec une satisfaction indicible, l'honnête ouvrier que nous savons, trouvèrent en lui un fils tendre et dévoué. Arrivé à la dernière période de la vie humaine, il bénissait chaque jour le Seigneur qui avait permis que de la plus belle soupière à fleur de Jeanne sortît tant de bien pour tous. L'humble savetier de la rue Vieille du Temple devint promptement un des plus habiles cordonniers de Paris. Quoique riche, il ne voulut pas sortir du rang où l'avait placé la Providence. Il se maria avec la femme de chambre de mademoiselle de Toury, pieuse et excellente fille. Il disait souvent à son fils, à son premier-né, en écartant ses cheveux pour le baiser au front, « Souviens-toi, mon cher petit Jacques, que la paresse est le plus affreux de tous les vices, parce qu'elle conduit à tout. » Si le bon Dieu n'avait pas eu pitié de moi en plaçant sur mon chemin papa et maman Rondeau, elle m'aurait rendu mauvais fils, lorsque j'aimais ma mère au-delà de toute expression. Mauvais frère, et mes sœurs savent quelle tendresse j'avais pour elles. Mauvais et ingrat ami, et monsieur et madame Rondeau avaient déjà une grande place dans mon cœur. Plus tard, ayant faim, j'ai volé, sans doute, et changé ainsi l'amour de ma famille, l'estime des gens de bien, et ma vie si douce et si riante d'aujourd'hui, contre la honte et la misère, et contre une chose plus cruelle, plus affreuse cent fois, et que tu ne comprends pas encore, l'infamie.